à tous et bienvenue sur la Disney's Music Box. Salut Max, comment vas-tu ?
Salut Alex, ça va et toi ?
Ça va très bien, ce n'est pas du tout écrit sur notre, bon. Sur notre prompteur.
Et bien, c'est que je dis toujours le ça va et toi de la même manière, comme un gros
débile. Oui, et moi je dis toujours salut comme toujours pareil. Mais voilà, ça habitue les auditeurs et on a même une standing ovation dans le chat, car oui, n'oubliez pas, nous enregistrons ce podcast en direct live sur Twitch. Un jeudi toutes les deux ou trois semaines. La Disney's Music Box fait partie du label Et la Bête avec rien que d'y penser, Flan, Secret Disney, le petit dernier, Musicland. Et vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Et d'ailleurs, on va remercier les patrons.
Quand tu veux.
Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci.
Merci, Marie. Merci Valaré, Valarette. Merci Greg.
Merci
Victor. Merci Canloa.
Merci
Pierre.
Merci
Damien.
Merci
Jérôme.
Merci
Big Up GG. Merci Mirana.
Merci
Samuel. Merci à Alice et Bibou, les futurs parents. Et appelez votre enfant Maxime, ce sera cool.
Merci. J'ai arrangé la fin. Et on est
j'ai mis du temps à comprendre, en fait, j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que tu faisais comme musique.
Bah vraiment, celle que j'ai chantée il y a 20 minutes à peine. Et donc, on est parti pour parler de Toy Story, c'est parti pour le contexte.
Plus les années passent, plus on est solidaire. C'est peut-être ça notre destinée. Crois-moi, je suis toujours là, car je suis ton ami.
Toy Story, premier long métrage d'animation à utiliser des images générées uniquement par ordinateur, mais aussi le premier long métrage de Pixar Animation Studio, coproduit et distribué par Walt Disney Pictures. Le film est réalisé par un certain John Lasseter, qui est un petit peu problématique aujourd'hui, mais c'est pas grave, on le présente quand même. Ancien élève de CalArts, j'arrive jamais à le dire, ancien élève de CalArts, aux côtés de Brad Bird, Henry Selick ou encore un certain Tim Burton. Il passe 4 ans dans les studios Disney avant d'être licencié alors qu'il avait bossé sur un projet de film animé par ordinateur, projet qu'avait déjà un de ses supérieurs pas vraiment ravi de la nouvelle. Il travaille ensuite dans une filiale du groupe Industrial Light and Magic, il y a beaucoup de mots anglais aujourd'hui, je vous préviens. Donc Industrial Light and Magic, c'est Lucasfilm Computer Graphic Group, et c'est en fait créé justement par tout ce qui est Lucasfilm, hein, George Lucas, tout ça. Et
pas.
Il travaille, mec qui pense qu'il y a du son dans l'espace, donc c'est un con.
Bah passons de là, oui, il y a un souci.
Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi ? On peut pas travailler comme ça, hein. Et là, dans Lucasfilm Computer Graphics Group, il travaille sur les aventures d'André et Walibi.
Walibi, je connais, j'y suis allé avec Curien, on a fait un podcast dessus.
Et sur André, non ? Et donc, les aventures d'André et Walibi, c'est le premier court-métrage réalisé par ordinateur, le vrai, le seul. George Lucas, à ce moment-là, il est en plein divorce. Et il revend Lucasfilm Computer Graphics à un certain Steve Jobs, qui est à ce moment-là le PDG d'Apple, et donc Lucasfilm Computer Graphics Group devient Pixar en 1986. John Lasseter devient donc directeur artistique de Pixar. En 1988, le court-métrage Tin Toy sort, écrit et réalisé par Lasseter. Plus tard, Disney et Pixar se mettent d'accord pour réaliser un téléfilm basé sur Tin Toy, justement. Au fur et à mesure, le téléfilm va devenir film.
C'est ce truc avec le bébé dégueulasse qui ressemble encore plus à un jouet que les
exactement.
Jouets... C'est incroyable, ce truc. Ça fait très très peur.
Le bébé fait peur, le jouet il fait pas peur en lui-même, ça va.
Non, le bébé par contre, il est affreux.
Donc, le téléfilm va devenir un véritable film qui sera nommé Toy Story. Le personnage de Tin Toy devait être justement le personnage principal, mais il est considéré un petit peu trop daté, parce que vous savez, c'était cette espèce de personnage, un jouet qui fait de la musique avec un gros tambour, etc.
Et de petites cymbales.
Exactement. Et il va vite changer pour devenir un militaire, puis un militaire de l'espace, et donc un ranger de l'espace. Et oui, c'est lui le personnage principal pensé à l'époque. Un second personnage devait être une marionnette de ventriloque, un petit peu comme dans Toy Story 4, au final.
Ouais.
Et heureusement, il deviendra rapidement un cow-boy. Au scénario, on retrouve Pete Docter. Pete Docter, il a participé à Wall-E, vice-versa, il a produit de nombreux Pixar. On a aussi Andrew Stanton, qui a fait Mille et une pattes et Le Monde de Dory. On retrouve Joran, oh putain ce nom, on retrouve Joran.
On va dire Ranft.
Ouais, hein. On retrouve Joranft, qui a bossé sur La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. Joss Whedon, qui a bossé sur Atlantis, Avengers, et aussi là, une des meilleures séries de tous les temps, Buffy contre les vampires. Il a aussi d'ailleurs fait... Il a aussi bossé sur Dr. Horrible and...
Ah, c'est le truc que tu balances aussi... que personne ne connaît.
Non, c'est bon. Ouais. Personne ne connaît, mais je vous demande vraiment d'aller regarder ça. Il a aussi participé à Dr. Horrible Sing-Along Blog avec Neil Patrick Harris. Et c'est une tuerie,
oui,
ce truc.
Oui, on connaît.
Oui, on connaît.
Joranf, c'était un peu considéré comme le sauveur hein, de chez Pixar. C'est le mec de chez Disney qui est arrivé chez Pixar, en fait, qui a permis aux mecs de Pixar de mieux comprendre leur scénario, de mieux les faire évoluer.
Et bah, vive Joranft alors.
Bon, il est mort après. Il est mort en 2005.
Bon, bah, meurt Joranft du coup. Au scénario, on avait aussi Gary Truesdale. Hein, Belle et la Bête, Le Roi Lion, on a déjà parlé plusieurs fois de ce monsieur.
Le meilleur. Ah, le Roi Lion, le podcast est sorti au mois de septembre, et puis Le Bel et Bête, le premier podcast qui est sorti. Il a fait aussi le Bossu Notre-Dame, mais lui, on l'a pas encore fait.
Ah, oh, j'ai hâte de le faire, lui.
Et... dans la boîte à idées. Dans la boîte à idées, on a toujours un invité hein, pour celui-ci. Hein, mais...
C'est vrai, ah oui, c'est vrai. Le Demain. But de Demain, Toy fait. Story était de faire un buddy movie. Alors, je le dis en anglais parce que vraiment, film de potes, ça le fait pas trop. Plus adulte que les films Disney de l'époque, ce qui se ressent beaucoup sur le personnage de Woody. En 1993, après une projection test, c'est un désastre horrible. Disney demande à faire retravailler tout le scénario. C'est là où justement arrive Joranft, Joss Whedon, etc. Et Pixar survit grâce aux publicités qu'il produit. Car oui, Pixar était très connu pour les publicités. Au final, une nouvelle version est proposée en 1994 qui plaît beaucoup plus, sachant que Woody est devenu un petit peu moins un connard. Car dans la première version, c'était un connard. Le film sort le 22 novembre 1995 aux États-Unis et le 27 mars 1996 en France.
D'ailleurs, le saviez-vous ? Une petite référence ? Ouais. J'allais y venir.
Le saviez-vous ? Dans
pour
le Land.
Euros, vous le saurez.
Toy Story Playland. Ces deux dates sont écrites à divers endroits. Je vous laisserai regarder. Et ça devient le plus gros succès de l'année 1995, et ça va même battre Batman Forever, Pocahontas, Max, tu l'as dans tes dents, ou GoldenEye et Jumanji. Disney voulait que Toy Story soit un film musical, mais ils vont se ranger rapidement de l'avis de John Lasseter, et ils vont décider de donner la composition de la musique à Randy Newman, du fameux gang des Newman. Randy Newman, c'est celui qui a composé pour Mille et Une Pattes, Monstres et Compagnie, Cars, Princesse et la Grenouille, etc., etc. C'est pas un des autres.
J'en reviendrai un tout petit peu après dessus. Mais spoil pas trop.
Ce sera le premier film d'animation pour lequel compose justement Randy Newman.
J'ai une question.
Oui.
S'il y a un nouveau garçon dans la famille des Newman, est-ce que c'est un nouvel homme ?
Obligé, et on en, comme tous les podcasts où on en parle, ce sera obligatoirement un compositeur, sinon on le tue à la naissance, c'est connu. L'orchestration est de Randy Newman et Don Davis. Don Davis a entre autres composé pour Matrix et orchestré pour Dingo et Max, Hocus Pocus ou encore Titanic. En parlant de Randy Newman, c'est sa voix entre autres que vous entendez dans You've Got a Friend in Me. Et donc, nous allons passer à l'histoire.
Faut dire que tout ça est bien étrange. Impossible à prévoir. Étrange, étrange, bizarre, bizarre. Et je dis bizarre comme c'est bizarre. Étrange, impossible à prévoir.
Dans la chambre d'Andy, ses jouets se mettent à vivre leur propre vie dès qu'il sort de la pièce. Le jour de son anniversaire, tout le monde, tous les jouets, craignent d'être remplacés, sauf Woody le cow-boy, le jouet préféré d'Andy. V'là le melon du mec. Mais Andy reçoit une figurine articulée d'astronaute, Buzz l'éclair. Woody n'est plus le jouet préféré d'Andy. V'là les boules. Alors qu'Andy se prépare pour aller à Pizza Planet, Woody projette Buzz à travers la fenêtre. V'là le meurtre. Andy ne trouvant plus Buzz, il s'empare de Woody pour aller à Pizza Planet. Buzz voit soudain Andy aller dans la voiture de sa mère avec Woody et grimpe dans le véhicule pour se venger de ce dernier. Double meurtre. Lors d'un arrêt à une station-service, les deux jouets rivaux se battent, quittent même la voiture de la mère d'Andy qui repart sans eux. Ah, voilà le plot twist. Ils arrivent finalement à Pizza Planet et finissent dans une machine attrape-peluche où Sid, le voisin d'Andy, connu pour être un destructeur de jouets, les capture. Buzz et Woody se retrouvent coincés dans la maison de Sid. Attention, Sid, c'est pas celui de... qui renferme de nombreux jouets inquiétants, ainsi que Scud, le chien. Buzz a une crise identitaire après avoir compris qu'il n'est qu'un jouet. Woody organise alors un plan avec les autres jouets méchants, qui sont en fait gentils, pour s'échapper après avoir sauvé Buzz des griffes de Sid. Voilà le trauma du mec, quoi. Mais le camion de déménagement est parti. Après une course-poursuite de folie, la famille et tous les jouets d'Andy arrivent finalement à bon port, et non à bon port comme Bayonne, dans la nouvelle maison. Merci pour la blague de fin, Max. C'était l'histoire de Toy Story.
L'histoire est quand même plutôt classique, hein.
Oh bah elle est très classique. Hein.
C'est rigolo, c'est qu'en fait, c'est une histoire classique pour un Pixar. Après tous les Pixar, ce film, Voyage Quête, où il traverse tout un monde qui est inconnu pour les personnages et pour les héros. Et puis, à la fin, ils retournent chez eux et puis ils sont relivrés. Très, très peu de films hein, qui ne sont pas sur cette base-là chez Pixar.
Ouais, totalement. Mais en vrai, bah, c'était le premier et ça fonctionne, quoi. Le buddy movie... Où de base on s'aime pas trop, puis on s'aime vraiment pas du tout, puis finalement on va s'aider, et finalement on est les meilleurs amis du monde. Et nous allons passer, tranquillement mais sûrement, à la musique.
Alors, c'est parti pour la musique. Tellement de choses à dire. Donc, la première chose, c'est que, donc, comme tu disais, John Lester ne voulait pas d'un film musical. Il voulait, lui, faire un dessin animé plutôt classique, comme on pouvait voir un petit peu à l'époque, tout ça. Mais à l'inverse, Disney, qui était donc producteur ou distributeur ? Producteur, les deux, coproducteur.
Distributeur.
Distributeurs, eux voulaient d'un film musical tel qu'on les avait en fait dans les années 90, enfin, tel qu'on a eu chez Disney en fait depuis son ouverture.
Et producteur, création. Attends, désolé.
Oui. Et donc Disney voulait donc bien un film musical et en gros ils ont trouvé un juste milieu par rapport à ça. Le juste milieu, c'est il y a de la musique, il y a des chansons, mais ce ne sont pas les personnages qui chantent les chansons. C'est pour ça en fait que c'est Randy Newman, le compositeur, qui fait les différentes chansons du film. Chose hein, bien sûr qu'ils ont un peu cassé dans le deuxième, où est-ce que c'est Jesse qui chante sa chanson, elle. Dans le 3 et le 4, j'ai pas de souvenir. Le 4, pardon, il n'y a pas de 4. Dans le 3, j'ai pas de souvenir. Dans le 3,
il n'y a pas de 4.
Non, il n'y a pas de story 4, Alex.
Ah si, je l'ai adoré.
Je m'en vais.
Franchement, je l'ai beaucoup aimé. On en reparlera. Quand on fera Toy Story 4 à la saison 10.
Ouais, c'est ça. Quand on fera Toy Story 4, jamais. Lequel on fera avant ? Le Bossu Notre-Dame ou Toy Story 4 ? Mais
bonne question.
Tu sais, on a quand même Cendrillon 3 à faire avant, Alex. Hein.
On a aussi Sneakerella.
Allez, Toy Story 4. le directeur musical de Disney de l'époque prend la décision en fait de laisser la composition de la musique à Randy Newman, qui est donc un auteur, compositeur, interprète, pianiste de jazz principalement, qui a fait beaucoup de musique de films, de séries aussi. Il a 8 Pixar à son actif, donc les 4 Toy Story, il a Cars 1, Cars 3, il a Monstres et Compagnie, il a Monstres Academy. Donc en fait, il en a 9 à son actif. Et il a aussi un Disney, La Princesse et la Grenouille. Le seul Disney vraiment très très jazzy. Ce qui est plutôt cool. Il a gagné 2 Oscars, il a gagné 3 Emmy Awards, il a gagné 5 Grammy Awards, il a même son étoile au Walk of Fame à Hollywood, et puis il est devenu Disney Legend en 2017. Et Randy Newman, il est dans les films qu'il a fait, Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi, avec Ben Stiller et Robert De Niro. Et ce film-là,
c'est beaucoup quand même.
Je les adore. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait c'est lui qui a fait la chanson du générique de Monk. Et pareil, pour moi c'est toute ma jeunesse, donc je suis comme un fou. Il a un de ses premiers films, c'était le film Ragtime. Ragtime, hein, truc de jazz, tout ça. C'est, bah, oui. Je crois, un film qui se déroule début 20e, enfin fin 19e, début 20e. Et en fait, ces musiques-là, les musiques de Ragtime, on les retrouve beaucoup sur Main Street. L'orchestre utilisé pour ce film n'est pas exceptionnel. Alors, quand on écoute bien, on sent qu'il n'est pas exceptionnel, qu'il n'est pas énorme. C'est pas les gros orchestres symphoniques tels qu'on pouvait les trouver encore chez Disney. Bien avant, même les grands orchestres qui font des grands envolées lyriques, vraiment très, très imposants, tout ça. Là, on a vraiment un tout petit orchestre, un peu un orchestre classique. Il y a beaucoup de cordes, ça s'entend. Ce qui a une couleur de violon, d'alto, de violoncelle, de contrebasse qui est très reposante. Robert Finga, qui était directeur musical à Disney, me parlait de Lush Sound. Enfin, il n'y avait pas une fois de par rapport à Winnie l'ourson, un spectacle qu'il a fait sur Winnie l'ourson, en parlant de Lush Sound, un son où est-ce qu'on peut se reposer dedans, comme sur un petit nuage. Et ben, je trouve que dans Toy Story, en fait, on a la même chose. C'est un son très reposant au niveau des cordes. On a envie de se poser dedans, de se faire plaisir.
T'as bien une idée de Lush Sound, là.
Ouais. Et il y a ça, on sent que tous les instruments avant sont par un ou par deux. Donc en fait, c'est un orchestre qu'on appelle classique. Quand je dis les instruments avant sont par un ou par deux, c'est-à-dire qu'on a une clarinette ou deux clarinettes, on a une ou deux flûtes, pas plus. Il n'y a pas de grands orchestres, en fait. Et on sent aussi que c'est beaucoup, beaucoup l'orchestre qui joue. Et il y a peu d'instruments en dehors de l'orchestre. Il n'y a pas de guitare électrique, il y a peu de batterie. Enfin, c'est vraiment l'orchestre qui est mis en valeur dans la musique de Toy Story. Et pas que dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, aussi dans Monstres et Compagnie.
Le 4 existe. 15,
dans le 1, le 2, le 3, le spin-off.
la fanfiction, ouais.
C'est ça. On sent vraiment en fait que l'orchestre n'est pas hyper fourni, n'est pas très développé. Intime. Le mot c'est intime. Il y a donc 3 chansons qui ne sont pas diégétiques, c'est-à-dire qui ne sont pas interprétées par les personnages, qui ne sont pas présentes dans l'action. La première c'est You've Got a Friend in Me, en français Je suis ton ami, qui est premier de la soirée. Et en fait, quand je vais parler de ce mot-là, ce sera peut-être un petit peu faussé. C'est le leitmotiv de l'amitié entre Andy et ses jouets. Avec sa fameuse introduction, la meilleure introduction.
Tellement agréable.
Qui est joué à la clarinette. Cette chanson, qui dès qu'on l'entend, enfin, passons avec notre. Autant toi que moi, on est de la génération de. T'avais 5 ans, j'en avais.
Pas.
J'avais 6 mois. Voilà. Mais Le Roi Lion était ma première cassette et Toy Story était ma deuxième cassette. Cassette, hein. Ça fait mal.
Eh oui, cassette, moi je me souviens des cassettes Aladdin que j'ai fumées. Je sais pas, Aladdin et Roi Lion.
Mais voilà, quand on entend ça, c'est la séquence émotion, quoi. Dès que je regarde un Toy Story et puis que je vois ça, le 4, je vais voir au cinéma. je le dis doucement. Mmh. Mais en fait, je pense que le 4, le meilleur moment pour moi, ça a été vraiment les 4 premières minutes où on avait la musique de Toy Story. On avait... Deuxième chanson qu'on a, c'est Strange Thing, Étrange Bazar. Cette chanson, en fait, c'est le changement de préférence d'Andy. C'est là où il préfère, en fait, avoir Buzz comme nouveau jouet préféré, comme égérie, limite, à la place de Woody. En fait, c'est chanson de Randy Newman, ce qui fait que c'est...
C'est souvent la même chose, hein.
C'est un peu souvent la même chose. Alors, là, les trois chansons sont quand même toutes les trois différentes. Hein.
Oui.
You Got Four and Me, c'est une petite balade tranquille. Strange Thing, c'est quelque chose de plus rythmé. Du The Steely Beat, c'est écrit sur la partition. Et alors que la troisième chanson est beaucoup plus calme, beaucoup plus triste, beaucoup plus mélancolique. En fait, la mélodie est très droite, un peu descendante, mais...
Oui.
Il n'y a pas de grand moment en fait dans cette mélodie, ce qui fait que c'est un côté un petit peu parlé, c'est on raconte le problème. Et après la suite c'est là. On la retrouve jamais, par exemple, dans les instrumentales. C'est juste une chanson d'ellipse temporelle. Et la troisième chanson, c'est I Will Go Sailing No More, Jamais Plus Je Ne Volerai. C'est une chanson qui était difficile à composer pour Randy Newman, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose de triste, puis d'un coup, qu'il y ait un regain d'espoir, et après, encore plus triste. Buzz se rend compte, il croit que non, et en fait, il tombe. C'est vraiment une chanson très très triste.
Oui.
Et en fait, ça c'est toute la partie où est-ce que donc ils se rendent compte, hein, c'est jamais je I will go sailing no more, jamais plus je ne volerai. Et puis d'un coup, on part sur un truc un peu plus fier. Buzz, il est fier, il veut montrer que si, il va y arriver. Il saute, jamais plus je ne volerai, et puis il saute, m'envoler, je m'envoler, et puis là il saute, et puis il se plante, et puis d'un coup en fait ben il tombe, il se rend compte qu'il ne peut pas voler, puis ça fait...
Je connais l'exorciste.
Cette chanson, c'est peut-être une de mes préférées. Et donc voilà la troisième chanson, donc les trois uniques chansons du film. Puis à la fin, il y a la reprise de You've Got a Friend in Me, normalement à la fin, dans le générique de fin, qui est en duo avec une chanteuse, je ne sais plus laquelle.
En duo avec Lyle Lovett.
Ensuite, il y a un petit thème des jouets. Ça fait palala, palala.
Pas palala, non, c'est pas ça.
Ah non, c'est pas ça en fait. Non, ça c'est le thème de base. Le thème de base, ça fait palala, palala, Et ça, c'est le thème de base.
Mais son papa, on le connaît en plus. Pourquoi tu dis papa depuis tout à l'heure? Zerg, 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 zerg.
Zerg, zerg, zerg. Ça, c'est le thème qu'on entend en plus dans la série Racer. Il y a le, oui. Il y a le thème de Woody à la trompette. Et ta la la ta ta la ta la ta la ta la ta la ta ta la ta la ta. Qu'on entend dès qu'on voit Woody faire ses histoires de cow-boy. En fait, on entend très très peu. Celui qu'on entend le plus, c'est celui principalement de Buzz.
Okay.
Et il y a un troisième thème, c'est le thème des jouets. Et et en fait, dessus, il y a une walking bass. Le walking bass, en fait, c'est quand on a la contrebasse ou la basse électrique en fait, qui font plein de notes très très vite.
Ah, comme si ça marchait. Pour ça que la walking bass.
Walking bass. J'ai bien le faire. Hein. Ouais. Et en fait, ça, dès qu'on entend, de toute façon, la walking bass, on sait en fait que ça va parler des aventures des jouets, mais des jouets de tout le groupe des jouets en même temps. Et dernier point, au niveau de la musique, en fait, il y a aussi beaucoup de Mickey Mousing. Il y a énormément de Mickey Mousing.
Mais, Max, c'est quoi le Mickey Mousing?
Le Mickey Mousing, c'est quoi? C'est un geste à l'image, un son. Et puis voilà ce que je pouvais dire par rapport à la musique. Est-ce qu'ils n'ont pas mis beaucoup de Mickey Mousing parce que Pixar bosse pour Disney et que Randy, on fait bien comme vous? Non, je pense vraiment que Randy Newman... Enfin, non, parce que la musique, normalement, ne peut pas être présente du tout. Lester, c'est ce qu'on disait en début de présentation de la musique. John Lester, en fait, ne voulait pas qu'il y ait musique ou qu'il y ait moins pas de chansons. Et puis la musique n'était pas trop pour... Dans Pixar, dans Toy Story, dans ces trucs Pixar, parce que ben ils voulaient pas faire du Disney en fait. Et je te pardonne. Et en fait c'est pour ça je pense que Disney et qu'ils ont mis Randy Newman a mis beaucoup de Mickey Mousing parce que c'est son moyen pour lui ce que la musique soit intéressante sans pour autant avoir de chansons en fait. Je pense qu'il voulait pas faire un truc plan-plan. Puis c'était aussi sa première musique de dessin animé. Si tu dis Mickey Mousing, ça va, c'est pour plaire à la famille. Hein. Puis Mickey Mousing, c'est cool à faire. Parce que dans toute la séance des soldats, au début, c'est hyper Mickey Mousing. Alors déjà, en plus, dans toute cette séquence, en fait, il y a cette fameuse walking bass qui montre le truc des jouets. En plus, walking, il marche, tout sympa, tout ça. Mais oui, beaucoup de Mickey Mousing pour... C'est pas facile à composer du Mickey Mousing. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit synchronisé, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit... en très bonne relation avec l'image, tout ça, mais je pense que là c'était plutôt une facilité de transmettre le message. Sur le fond c'était facile, sur la forme c'était beaucoup plus difficile, mais on en parlera un peu plus précisément dans un podcast au mois de janvier.
Et d'ailleurs on a eu un avis très spécial cette semaine sur la musique, on a eu l'avis des Patreons, et donc les Patreons, est-ce qu'ils ont aimé ou pas? Eh bien nous pouvons dire qu'à 100%
Les Patreons
ouvrent la boîte à musique.
Et puis moi aussi, je l'ouvre la boîte à musique.
Et bien moi, certes, je l'ouvre aussi.
En fait, là où je pouvais aller avant, c'était le manque de synchronisation, chanson, musique, machin, tout ça, mais c'est sur les Disney. Sur un Pixar, ça me choque beaucoup moins.
Je suis d'accord.
Et puis en fait, le travail de Randy Newman est tellement bien fait, en fait, que c'est même pardonné, en fait. Sa patte de composition, ses idées, tout ça, en fait... sauve le truc, et je trouve que c'est même très très bien par rapport à ça. Par contre, tu sens quand même que Randy Newman, quand il compose, je vais pas dire qu'il renouvelle pas ses idées, c'est... il est quand même rassuré par rapport à un truc, et puis il a du mal à se renouveler.
Oui, alors, peut-être, ce que tu veux dire.
Parfois de manière un peu peut-être parfois c'est intentionnel, parfois c'est peut-être pas intentionnel. Je vais prendre l'exemple le plus bête, hein. La scène des ordures, des poubelles dans Toy Story 3. La musique, c'est strictement la même que la scène des poubelles dans Monstres et Compagnie. Et après, je crois que c'est la scène finale de Monstres et Compagnie, où il y a Boo, là, qui est triste, qui fait un clin, tout ça. Je crois que c'est la même musique que dans la fin de Toy Story 3 dans So Long, la piste So Long.
Et bah dis donc.
Il y a plein d'idées comme ça, en fait, qui reviennent chez Newman. Dans... Alors, je pense que le coup du poubelle, c'était quand même plutôt fait exprès. Tu vois, c'est ce que
j'ai dit. Oui, c'était plus un clin d'œil qu'autre chose.
Mais voilà, il y a vraiment cette ambiance Randy Newman qui est très très bien par rapport à ça, je trouve. Ces cordes qui sont très reposantes, des instruments qui sont tout seuls. Il y a un côté très intime dans les Pixar de Randy Newman. Après, Cars, j'ai vu une fois le premier Cars, j'ai pas vu le 3, le 2, Mais voilà, sur Monstres et Compagnie et sur Toy Story, c'est... Et qu'on ressent aussi beaucoup dans, dans la princesse et la grenouille.
Je vois Nagla qui dit que Toy Story 3, c'est son préféré, mais justement, on va en parler très rapidement en voyant ce qu'il y a ailleurs.
Sous les étoiles, je chante au-delà des lunes. Dans mon grand vaisseau d'argent, le rêve s'achève. Je sais bien sûr qui je suis et pourquoi je suis là.
Tu es un jouet, tu ne peux pas voler.
Mais jamais plus je ne volerai.
Au niveau des films, on a effectivement eu 3 suites et des courts-métrages à foison.
Pardon. 2 suites et un spin-off.
Et alors, je suis d'accord avec toi, Nagla. Toy Story 3 est mon préféré de loin. Mais je pense aussi qu'une chose intéressante, c'est que le 2 est sorti pas
peu
si
temps
longtemps
après,
après le 1.
Il y a ce point aussi affectif où dans le 3, ben en fait.
On retrouve nos trucs de gamin, quoi.
Mais c'est qu'en fait, on a grandi avec Andy. Andy, il y a quoi 5, 6 ans dans le dessin animé. C'est ton âge. Enfin, t'avais 5 ans, 4. T'avais 4 ans à sortir Toy Story. Bon, moi, j'en avais, il y avait 6 mois, d'accord. Mais, 8 peut-être. Mais, en fait, on a grandi avec Andy. On a grandi avec ses jouets. Et puis, d'un coup, en 2010, là, t'apprends que Andy, il part à la fac. Moi, en 2010, tu partais à la fac. Moi, j'étais en première. Et je crois que la première fois que j'ai vu Toy Story 3, je devais rentrer à la fac, un truc comme ça aussi. Et ben, il rentre à la fac et puis il abandonne ses jouets. Eh ben moi aussi, hein, je commençais à vendre mes jouets parce que j'avais besoin d'argent, et puis...
Je sais que Toy Story 3, on l'avait vu au cinéma avec mes parents, mon frère, on est ressorti de là, du ciné, on était tous en larmes.
J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Mais voilà, ce qui fait que, on a grandi avec Andy, on l'a vu évoluer, puis c'est vrai que... Alors, autant, si je me doutais bien que personne n'allait cramer à la fin dans le truc, j'ai pas été triste, c'est de voir...
C'est l'image.
Andy donner ses jouets et puis jouer pendant toute l'après-midi. Mm. Et puis il s'en va. Et t'as tous les jouets qui sont assis.
Et... Au revoir. Salut.
En fait, c'est con, mais ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là. Il y a des gens qui disent, ma conjointe la première le dit, c'est que le 4, c'est bien, c'est que ça montre que les jouets ont une vie après. Et au final, oui, le 4, pour montrer qu'ils ont encore une vie après et qu'ils avancent, tout ça. Mais en fait, non. Je pense qu'il aurait fallu s'arrêter. En fait, je pense que. Là où ils ont fait l'erreur de faire le 4, c'est qu'ils ont vu, la saga Toy Story comme la vie de Woody et des jouets, alors qu'en fait, la saga de Andy. C'est vrai que la vie avec Bonnie, on s'en fout, quoi. Puis Bonnie, quand elle aura 18 ans, elle va donner tous ses jouets aussi, puis basta.
On a aussi eu des courts-métrages spéciaux à foison, hein, spécial Halloween, plein de spéciaux. Au niveau des jeux vidéo, on a un excellent jeu à l'époque, à la sortie, on parle de Toy Story 1 là, sur SNES, Genesis, PC, on a aussi une version Game Boy mais qui était pas top. J'y avais joué sur PC, je me souviens même pas si j'étais allé très loin, mais juste le souvenir, tu sais, de jouer au... Je pense que je jouais au premier niveau en boucle d'ailleurs.
Comme beaucoup d'enfants, hein.
de jouer Woody et de sauter dans cette chambre, moi j'avais adoré. Effectivement, il y a aussi Toy Story, mais pour le coup c'est Toy Story 3 dans Kingdom Hearts 3. Ouais. On a des références à Toy Story dans tous les jeux Disney avec plusieurs persos. Hein,
Disney Infinity, ce fameux Disney jeu avec Night les Valley. Petits, le fameux jeu avec les petites figurines là, qui fait les maîtres. Ouais. Je te reprends juste sur les films. Tu disais qu'il y avait une 3 suites, il y avait des courts-métrages spéciaux à foison de ça, il y avait une série aussi sur Buzz l'éclair.
Oui, c'est vrai.
Qui n'est pas sur Disney Plus. Au niveau des spectacles, il n'y a pas de spectacle à proprement parler sur Toy Story. Par contre,
en tout cas,
il est présent dans les.
Autre que dans un parc.
Ouais, aussi dans les Disney on Ice. Il y a des références à Woody. Et Woody est en vrai personnage. Il est pas en face caractère et non en personnage.
C'est vrai.
Pas de livre non plus. Ah, il y a c'est bête, j'ai pas sorti. Oui, j'ai fait un livre. On a fait un live sur Toy Story ce soir. Ben, j'ai un super livre sur Toy Story, mais que j'ai pas sorti.
Oui, après, il y a des livres sur la saga Toy Story, mais il n'y en a pas sur Toy Story 1, premier du nom. C'est pour ça que j'ai pas mis forcément les livres.
un super livre ici que j'ai trouvé sur Toy Story. C'est, ça s'appelle Toy Story, c'est de Tom Kemper. Et qui retrace en fait la genèse du film, toute sa production, sa réception, tout ça. Que j'ai lu un peu et très difficile. Bon, il est quand même assez costaud. Ensuite, dans les parcs, ben, Toy Story, c'est.
Il y en a partout.
En fait,
en
partir du moment où Toy Story est arrivé.
Il y en a beaucoup trop.
Non. Il y a Toy Story Playland qui est arrivé, donc le premier au Walt Disney Studio qui a ouvert fin août, début septembre 2010, avec RC Racer, avec Toy Story Soldiers Mission Parachute, avec Slinky Dog. C'est compliqué. Ouais. Bref, on voit Slinky en forme de chenille, on voit c'est la tour de la terreur, mais pour les enfants, sur les formes des parachutes. Ça fait mal, ça. Hein. Et puis RC Racer. RC Racer, hein, qui est un half pap, c'est-à-dire un circuit en demi avec la voiture qui fait des allées de retour.
Un truc gerbant à souhait.
Ça, je l'ai fait une fois avec la gueule de bois. Et oh, après, on a arrêté de faire des manèges pour la matinée. ce land a été dupliqué à Shanghai et à Hong Kong. Avec les mêmes erreurs, hein, bien sûr. Les erreurs de débit. Ensuite, lorsque une partie de Disneyland en Californie, de Disney California Adventure a évolué, Toy Story est arrivé dans Pixar Pier. Et avec Toy Story Mania. Enfin, Toy Story Mania était arrivé avant. Ils ont mis la zone Pixar Pier plus tard, mais Toy Story Mania est arrivé avant, qui est dupliqué aussi en Floride, à Tokyo Disney Sea. Je ne sais pas si je ferai ou pas Toy Story Mania, ça dépendra des temps d'attente, mais j'avoue que c'est peut-être pas.
C'est pas le truc qui me tente le plus. Quoi, ouais.
Alors, je vais peut-être me faire des ennemis à dire ça, mais si je veux faire un truc interactif avec des jeux, chez Disney, j'ai fait Slingshot, Spider-Man Web Adventure, j'ai fait Buzz Lightyear, Laser Blast, bref. Mais c'est tout. Après, de toute façon, je vais mettre les 15 balles pour payer mon premier accès à Toy Story Mania, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr.
Nagla qui dit, chaque itération du Playland, Assassin's Creed était censé être en deux pistes en parallèle, comme deux tours qui peuvent partir de front.
Donc j'imagine en face à face, comme ça. Ouais.
Voilà, ou alors vraiment collé, peut-être un qui alterne l'un vers l'autre, je sais pas. À chaque fois, les restrictions de budget ont fait que, ouais, bon, on sait que c'est la merde d'ailleurs, mais tant pis, on met qu'une piste. Oui, c'est une image, hein, parce que c'est 4 x 5, c'est 20 personnes. C'est 20 personnes autour. 20 personnes autour, c'est très très long à embarquer, machin, tout ça. T'as facilement de l'attendre. Moi, j'ai fait 25 minutes le dimanche où on est allé. J'ai fait même pas, enfin, 20 minutes de queue, mais c'était rare. Hein. C'est rare.
C'est fou qu'il y en ait encore qui fassent ça par plaisir. Non, je regarde.
T'as regardé Toy Story 4, hein, moi je suis assez racer.
Ok, ça marche.
Ensuite, dans les shows, on a dans Disney Showtime Spectacular, qui était donc une saison à Disneyland Paris. C'était la saison de la nouvelle génération où il y avait tous les nouveaux héros Disney qu'on voyait, dont ce Toy Story, alors que ce Toy Story était présent depuis au moins 15 ans. C'est arrivé à Fantasmic, hein, qu'on parlait en début de live. Donc c'est arrivé à Fantasmic, dans Mickey and the Wondrous Book, à Shanghai et à Hong Kong, qui était un spectacle avec des écrans sur plusieurs étages, avec un écran sur plusieurs étages, ou avec un livre, et puis c'était Yen Sid, le fameux sorcier de Fantasia.
C'est pas Sid comme l'autre.
Ensuite, il était présent dans Mickey Presents Happy Anniversary Disneyland Paris, pour la zone sur Frontier. Ce show était un peu une blague, parce que c'était un show pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris, avec il y avait une scène par land, et pour le land de Frontierland, là où maintenant ils mettent Mélanie et Henry Ravenswood, eux ils ont préféré mettre Woody et Jessie, qui n'ont pas d'attraction à Frontierland. Mais c'est pareil, encore, hein, ils avaient mis Louis, vous pouvez les faire. Hein. Oui. Ils avaient mis aussi Louis et Bibalou, hein, pour Aventure, hein, par exemple. Ou Stitch pour Disco.
Ouais, Disco.
Présent aussi dans Mickey's Magical Music World à Tokyo Disneyland, qui est un show récent que je ferai, je pense.
Oui,
One Upon a Mouse à Tokyo Disneyland, donc dans les années 2000. dans Pixar Playtime Pals, un spectacle à Tokyo Disney Sea en 2018, je pense qu'il a dû être arrêté. Il est présent aussi sur la Cruise Line à Hong Kong avec le show The Golden Mickey.
Et aussi
un musical.
Toy Story, The Musical de 2008 à 2016 sur la Cruise Line.
Et donc c'était un spectacle d'environ 55 minutes, composé de 6 chansons originales, écrites par Valérie Vigola, qui est une compositrice qui a écrit pour les téléfilms de La Fée Clochette, ainsi que Brendan Milburn, qui a aussi composé pour La Fée Clochette.
Ouais, 6 chansons
sans
originales.
Sans les trois du film.
Avec.
Avec les
alors il y avait
You've
Got a Friend in Me, c'était chanté par Andy. That's Why We're Here, c'est de Woody et les jouets. To Infinity and Beyond de Buzz, Woody et les jouets. One Toy de Woody. The Claw des petits aliens verts, Buzz, Woody et Sid. Make a Little Noise de Sid. La reprise de To Infinity and Beyond par les annonceurs commerciaux et Buzz, donc dans les publicités et Buzz. Une reprise de Make a Little Noise de Sid. Une reprise en duo de That's Why We're Here de Woody et Buzz. Busted Make a Lot of Noise de Woody, Buzz, Sid et des jouets mutants. Une reprise de You've Got a Friend in Me et de That's Why We're Here de Bo Peep, Woody, Buzz, Andy et les jouets. Et enfin tout le monde qui chante le final To Infinity and Beyond. D'ailleurs, You've Got a Friend in Me a été raccourci. Il y a eu des petits changements.
Elle est déjà pas long la chanson. Hein. Enfin, faut savoir que dans le film, la chanson est même coupée par rapport aux chansons de l'album. Oui. Ils vont couper quelques secondes par-ci par-là pour peut-être plus de rythme. Dans les parcs aussi, c'est plutôt anecdotique ce que je vais raconter. Ils ont fait dans le bâtiment de Animation Célébration, ils ont créé un zoétrope qui est en fait une sorte de petit manège qui tourne sur lui-même avec différentes reproductions, statues. Des personnages, et en fait chaque statue aura un mouvement un petit peu différent. Ça tourne très très vite, d'un coup la lumière s'éteint, ça s'allume par flash, et en fait l'œil va assimiler, photographier les différentes images qu'il voit au moment du flash, et va provoquer une petite scène qui bouge devant soi. Et la musique utilisée, en fait, c'est la musique de palalalala, pilalalap, pilalalap. C'est la musique des jouets. C'était ma référence. C'est lui que j'ai retrouvé en même temps, le thème des jouets que je cherchais il y a 10 minutes.
Oui, c'est ça. Oh, il y a plus de 10 minutes maintenant. Hein.
Après, il y a eu donc différents restaurants qui ont ouvert. Il y a eu un Alien Pizza Planet à Disneyland en Californie, dans le Tomorrowland. Il y a eu un Toy Box Café à Shanghai. Il y a eu le Pizza Planet Arcade, Toy Story Pizza Planet Arcade de 95 à 2016 à Hollywood Studio en Floride. Il y a eu le Buzz Lightyear Pizza Planet Restaurant à Disneyland Paris, qui était au fond de Frontierland, qui proposait des pizza burgers. Et il y a eu aussi à Hollywood Studio, donc en Floride, le Woody's Lunchbox, et puis le Roundup Rodeo BBQ Restaurant à Hollywood Studio en 2022.
J'ai dans pas les mis, parades... mais aussi des cartes, des trucs comme ça à Pixar, Pixar Pier, ouais. Et tout, que j'ai pas forcément mis.
Au niveau des parades, des parades, c'est dans quasiment toutes les parades. Enfin, je vais prendre l'exemple de la France. Hein. C'est présent dans la parade du 30e, c'est présent dans la Disney Star Wars Parade, c'était présent aussi dans la Disney Wars Parade et donc la Disney et la magie Disney en parade. Ils ont été présents dans la parade de.
Tu vas toutes les faire là en vrai.
De Noël, pas d'Halloween, non, Halloween, non.
C'est vrai.
Mais ça a été présent dans la parade de Noël, je crois. Toy Story, on en bouffe de partout. Hein. Dans le Dreams of Noël aussi, celui qui revient la semaine prochaine, dans 15 jours, à Disneyland Paris. Le fameux Dreams of Noël avec une grande, grande séquence sur casse-noisette avec différents arrangements de casse-noisette, hein, en épique, en machin, en country, en tout ce qu'il faut. Enfin, Toy Story, c'est comme le Roi Lion, c'est comme Frozen, on en bouffe de partout. C'est Toy Story, Roi Lion, Frozen, Livre de la Jungle.
Et les feux d'artifice, pareil, ils sont quasiment... Enfin, parade ou feux d'artifice, c'est le même combat. Hein. Quand je regarde pour Toy Story, je vais juste vous dire les noms, vous allez voir à quel point c'est fou. Au niveau des fireworks, on a Celebrate the Magic, Celebrate Tokyo Disneyland, Disney Enchantment, Happily Ever After, Illuminate a Night at Sunrise Celebration, The Magic, The Memories and New, Momentous, Together Forever, and Pixar Nighttime Spectacular, World of Color. Et ensuite, on a tous les trucs spéciaux... Noël, spécial Halloween, The Nightmare Experiment, ils ont fait été, printemps, etc., etc., et c'est assez énorme.
surreprésentation d'une licence.
Eh ben écoutez, c'est là-dessus, sur cette surexploitation d'une licence qu'on adore, que nous allons arrêter ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box. Merci Max d'avoir décortiqué les musiques.
Merci Alex pour la mise en place du live ainsi que ton contexte et ton histoire.
La Disney Music Box est un live et la bête avec Rien que d'y penser, Flan, Sucré Disney et Musicland. Max, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Donc on peut me retrouver sur Musicland et mon dernier article, c'est toujours le même sur Avengers Campus.
Et t'inquiète pas, c'est pareil pour moi. Pour Sucré Disney, vous pouvez me retrouver sur Sucré Disney. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord et vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon et Utip. Et il y a aussi un wiki. Restez bien sûr pour la reprise finale. À très vite tout le monde. Bye bye.
Salut.
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Tout s'embrouille en vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Je suis ton ami. Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. T'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi. Tous les deux confondus comme les veines dans le bois, parce que je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Y'a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort, plus puissant aussi. Je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais. Toi et moi, et plus les années passent, plus on est solidaires. C'est peut-être ça notre destinée. En tout cas, crois-moi, je suis toujours là. Je suis ton ami.